Mais pourquoi donc le monde vivant a-t-il inventé la sexualité avec une telle biodiversité amoureuse? C'est vrai que les animaux ont beaucoup à nous apprendre sur la sexualité avec des pratiques improbables, voire effrayantes, qui battent en brèche les idées reçues sur le processus reproducteur. Et observer ces comportements parfois baroques permet, vous le verrez, de mieux comprendre le bricolage évolutif et la sélection sexuelle. La science des organes génitaux, on pourrait le dire ainsi, c'est le dossier de la tête au carré dans un instant avec mes invités et toutes vos questions sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. À la une de la science, une révolution à venir dans les maternités. Axel Villard, bonjour.
Oui Mathieu, peut-être les accouchements par césarienne pourraient voir leur protocole légèrement modifié par une découverte concernant le microbiote. On vous explique dans un instant avec vos questions sur Twitter pour la une.
Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons la chronique de Science Improbable de Pierre Barthélémy en partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde. Stéphanie Texier est aux commandes de cette tête au carré préparée aujourd'hui par Emmanuel Fournier.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Ce que les animaux nous apprennent de notre sexualité. Dossier donc dans quelques minutes avec mes invités Pierre-Henri Gouillon et Jean-François Dortier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Pierre-Henri Gouillon, vous signez la préface du livre Comme des bêtes du biologiste néerlandais. Comme les bêtes, pardon. Menno Schillutsen. Je prononce bien son nom ou pas?
Schillutsen.
Voilà, bon, c'est son nom en tout cas, on ne va pas le prononcer souvent. Il sort ce livre chez Flammarion.
On va dire Menno.
Voilà, Menno. Un mâle et une femelle qui copulent tranquillement ensemble pour perpétuer l'espèce, c'est une idée qu'il faut absolument ranger dans les tiroirs?
Alors, oui, effectivement, je crois qu'il faudrait arrêter avec ça. Premièrement, copuler tranquillement, c'est plutôt une exception. En général, c'est pas si tranquille que ça. Et alors, l'expression « pour perpétuer l'espèce », ça, je pense que ça, oui, ça vient de la Genèse, en fait. Hein, parce que, voilà, le Créateur a créé les espèces avec une dimension de perpétuation. Et ça, c'est pas vrai. On n'a aucun élément pour dire que les organismes font quelque chose pour perpétuer l'espèce. Les pauvres, ils sont sélectionnés pour reproduire leurs gènes, pas leur espèce.
Voilà, on peut faire de la sexualité, on peut faire du sexe gratuitement, hein, on peut faire forcément avoir des idées derrière la tête.
Et puis on peut même, d'ailleurs, faire des choses qui maximisent la reproduction des gènes et qui aboutissent au fait que l'espèce s'éteigne.
Jean-François Dortier, est-ce que la sexualité dans le monde animal, ça sert à avoir du plaisir? Ou est-ce que c'est très secondaire?
Ça produit du plaisir déjà, c'est une grande découverte parce que pendant longtemps on s'était imaginé que les animaux pratiquaient une copulation qui ressemblait un petit peu à nous, ce qu'on fait quand on va aux toilettes. Bon, ça nous soulage, mais en fait ça provoque pas un grand plaisir, ça provoque pas forcément des orgasmes. Alors depuis, maintenant on a beaucoup d'éléments qui nous laissent à penser que chez les oiseaux, chez nos cousins mammifères, chez même des animaux qui sont plus éloignés dans l'évolution, il existe quelque chose qu'on peut appeler le plaisir et même le plaisir intense.
Bon, bah écoutez, on va en parler. On prend son pied aussi chez les animaux et on se retrouve dans un instant pour en parler avec les messages des auditeurs. Comment corriger la flore intestinale des bébés nés par césarienne? C'est une question nouvelle à la une de la science aujourd'hui.
Lors de l'accouchement, le bébé entre en contact avec différentes bactéries de la flore vaginale et fécale de sa mère. En ingérant ces substances, le tube digestif du bébé se nourrit et s'enrichit des bactéries de sa mère, notamment de celles nécessaires à la constitution de ses défenses naturelles.
Voilà, et plusieurs études avaient déjà montré que les enfants nés par césarienne n'héritaient pas de la même immunité que ceux nés par voie basse. Une étude d'un genre nouveau, publiée aujourd'hui dans la revue Nature, tente cette fois de corriger artificiellement cette lacune. Bonjour Karine Clément.
Bonjour.
Vous êtes professeur de nutrition à l'université Pierre et Marie Curie, spécialiste du microbiote. Alors, quelle a été l'idée de ces chercheurs new-yorkais pour corriger la flore intestinale des bébés nés par césarienne, dans le cas où celle-ci, évidemment, était défaillante?
Alors, effectivement, c'était basé sur le fait que des études précédentes avaient montré des différences dans la flore intestinale, on dit le microbiote, d'enfants nés par césarienne et nés par voie basse. En fait, quand on est par césarienne, on a une flore qui ressemble plus à celle de la peau. Alors que quand on est par voie basse, et ben en fait, on a des germes qui ressemblent plus à la flore vaginale de la mère. Et donc l'idée, c'était de prendre des enfants qui étaient nés par voie de césarienne et de les remettre en contact en fait avec la flore vaginale de leur mère et de regarder durant un mois l'évolution en fait du microbiote.
Et comment ils ont procédé pour cela ?
Alors en fait c'est relativement simple hein, quand on discute avec les collègues obstétriciens. En fait on prend un petit écouvillon dans la région périnéale et vaginale de la maman et en fait on donne à l'enfant, on le remet en contact avec l'écouvillon. En fait comme l'enfant a un réflexe de succion, en fait il va se mettre, on va le mettre en contact au niveau de la bouche, du visage et aussi du reste du corps avec ce petit bout de coton quoi, si vous voulez.
Mmh. Est-ce que le but in fine est de protéger l'enfant de certaines pathologies?
Alors, l'idée, en fait, c'est basé sur des études déjà quand même depuis quelques années, hein, qui est de comparer en fait des enfants qui sont nés par césarienne et puis par voie naturelle, et en fait de les suivre en fait sur plusieurs années. En fait, ce qui est connu, alors c'est toujours difficile dans ces études de suivi parce que bien sûr on fait des associations, hein, et donc on voit que effectivement quand on est par voie de césarienne, on a plus de risques de certaines pathologies comme l'asthme, certaines allergies ou bien l'obésité. Donc en fait l'idée est également venue que un des facteurs qui pourrait expliquer ces relations serait effectivement une flore initiale qui est différente en fait chez les enfants nés par césarienne et nés par voie basse.
Karine Clément, les travaux ont été menés sur 13 enfants. C'est important de dire un mot de la méthodologie, dont 3 seulement ont bénéficié justement de ces bandelettes microbiennes issues de leur maman. C'est un nombre suffisant pour conclure quoi que ce soit sur le sujet ?
Alors c'est effectivement un nombre relativement faible, et d'ailleurs les auteurs le reconnaissent eux-mêmes. Donc c'est en fait 18 enfants. Et donc le nombre de ceux qui ont reçu en fait la flore, c'est effectivement 4 ont été mis en contact avec la flore vaginale de leur mère. Et donc on voit bien que quand on regarde attentivement effectivement la publication, on voit bien qu'il y a clairement des flores qui changent, et notamment ceux qui ont reçu la flore de leur mère, et bien en fait ils vont ressembler plus aux enfants qui sont nés naturellement par voie basse. Mais on voit aussi qu'il y a une très grande variation. Or, les nombres sont petits. Et donc, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est bien sûr le nombre. C'est pas suffisant pour avoir des conclusions définitives. Et puis le temps, parce qu'en fait, ils ont été suivis durant un mois. C'est quand même relativement court. Hein. Et donc, la question, c'est de savoir à plus long terme, est-ce que ces enfants vont aussi garder, en fait, ces changements?
Mais d'ailleurs, oui, est-ce qu'on a des éléments pour répondre à la question de est-ce que ce microbiote évolue en grandissant? Est-ce qu'il se corrige en quelque sorte?
Alors, bah c'est bien ça la question. Ce qu'on sait, c'est qu'à la naissance, effectivement, bah on va avoir un équipement initial qui est différent, comme on l'a dit, hein, entre la naissance par césarienne et puis la naissance par voie basse. Puis en fait, quand même, on rattrape un petit peu au cours de la vie. Et on dit qu'on acquiert vers 3-4 ans, en fait, on a acquis à peu près un microbiote, une flore intestinale un peu mature. Donc il y a des discussions actuellement sur le fait qu'effectivement on pourrait quand même rattraper en fait ce microbiote. Mais ce qui est intéressant ici, c'est vraiment ce qui se passe les premiers jours de vie. Question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment important en fait de remettre en contact effectivement avec la flore de la maman. Et donc ça nécessite, comme on peut bien l'imaginer, des études vraiment de suivi long terme, y compris de ces enfants, pour vraiment faire la démonstration que c'est utile.
Si jamais ces études aboutissent, vous pensez qu'il faudra modifier le protocole des césariennes ?
Alors, en discutant avec nos collègues, là, ici à la Pitié-Salpêtrière, effectivement, hein, quand on discute avec les gynéco-obstétriciens, effectivement, la question se pose. Hein, s'il y a vraiment une démonstration scientifique suffisante que c'est utile. Mais vous imaginez bien que pour avoir cette preuve, il faut vraiment suivre les enfants longtemps.
Et justement, c'est une pratique qui pourrait être mise en place rapidement dans les hôpitaux français, par exemple ?
Alors, on peut pas le décider comme ça sans effectivement avoir fait les études et notamment des études de suivi à plus long terme. Ici à la Pitié, avec nos collègues, en fait, on va démarrer une étude de ce type qui est effectivement avec un promoteur qui est l'INSERM, dans lequel on va suivre en fait 225 enfants qui vont être effectivement mis en contact ou pas avec la flore vaginale. Donc, et cette étude va durer plus d'un an, donc on verra bien effectivement comment ça se passe. Une des questions, c'est vraiment, au bout d'un an, est-ce que finalement les enfants auront finalement gagné plus rapidement en fait une flore plus mature ?
Pierre-Henri Gouillon voulait intervenir, je crois.
Oui, pourquoi pas aussi essayer la flore intestinale tant qu'à faire ?
Alors, Oui, là, bon, en fait, effectivement, il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur la mise en contact et notamment par le transfert de la flore intestinale. Ici, l'idée, c'est quand même de reproduire ce qui se passe lorsqu'on est mis en contact avec la filière, ce qu'on appelle la filière maternelle, hein, lors de la naissance.
Ça arrive.
Donc, effectivement,
aussi.
Une grande partie, c'est quand même la flore vaginale, mais il y a aussi un petit peu de bien sûr de contact avec le microbiote intestinal. Mais enfin, je pense que vous faites allusion également aux enjeux aujourd'hui de ce qu'on appelle le transfert fécal. Mmh. Effectivement, dans certaines pathologies, notamment infectieuses, où ça a l'air d'être assez efficace. Ouais.
Merci beaucoup, Karine Clément, pour cet éclairage extrêmement intéressant. On voit l'importance de toute façon de ce microbiote à la naissance. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Merci beaucoup à vous d'être passé dans le club aujourd'hui.
Je vous en prie.
Bonne journée.
Merci
beaucoup, Axel. On
au
se retrouve demain
revoir,
pour la une de la science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, toujours dans le domaine du microbiote, d'ailleurs attention aux déodorants et aux antitranspirants. Dans une étude parue aujourd'hui, des chercheurs de Caroline du Nord montrent que leur usage quotidien perturbe fortement la population bactérienne de notre peau en supprimant un grand nombre des bactéries responsables des mauvaises odeurs. Ces produits détruisent également celles qui nous protègent naturellement contre les infections. Selon les auteurs, notre coévolution millénaire avec ces micro-organismes est incompatible avec notre façon d'envisager l'hygiène, c'est donc à méditer. Si notre cerveau est plissé, c'est parce qu'il n'a pas la place de grandir librement dans la boîte crânienne. Les circonvolutions de notre cerveau qui commencent à apparaître dès la 20e semaine de gestation et se terminent vers l'âge d'un an et demi sont spécifiques à l'homme et à certains primates. Et grâce à une maquette de cerveau faite d'un gel expansif, des chercheurs français et finlandais ont réussi pour la première fois à reproduire parfaitement les formes bien particulières que prend un cerveau humain en grandissant. Grâce à cette démonstration maligne et efficace, ils mettent fin à un vieux débat de 40 ans sur l'origine de ces replis. Et puis pour terminer, huîtres et plastiques ne font pas bon ménage. Des chercheurs bretons viennent de démontrer que la présence de microplastiques dans l'océan perturbe fortement les capacités reproductrices des huîtres. Ces particules plastiques font en effet la même taille que le phytoplancton dont elles se nourrissent. Et les chercheurs montrent qu'après 2 mois d'exposition, les mollusques produisent moins d'ovules et de plus petite taille. De même, leurs spermatozoïdes sont nettement moins mobiles. Les huîtres placées dans les bassins les plus pollués ont vu leur taux de fécondité chuter de 41%. Eh bien justement, la sexualité animale, c'est le thème de notre dossier dans un instant et j'attends vos questions, vos messages, franceinter.fr.
J'ai vendu ma misère pour une voie de soumission. Au fond de moi, la sentinelle pouvait briller sans exception et les sourires étaient les mêmes. Attends le cri du cœur, la vérité ou la raison. Vous n'entendez donc que la bête et ses réponses à vos questions. Est-ce que la fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que ma peine était un vote de sanction? Et la sentinelle qui trouve réponse à mes questions, serait-ce la bête? Serait-ce la bête? Ou bien l'oppression? Mon cri sert de silence au fossoyeur de compassion, aux mijaurés la suffisance, aux incendiaires de l'unisson. Quand un sourire décède d'avoir souri à l'opinion, à cette soupape, cette sainte attelle, j'aurais pu encore dire non. Est-ce que la fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que ma peine était un vote de sanction? Et la sentinelle qui trouve réponse à mes questions, serait-ce la bête? Serait-ce la bête? Ou bien l'oppression? Ou bien l'oppression? Ou bien l'oppression? Avale donc tes sanglots, de l'amour ou de la haine, qui donc aura bon dos? Juste cri de guerre, pas en faux frère, mais en son nom, je donne ma main à l'enfer, sous le crachat malédiction. Est-ce que la fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que ma peine était un vote de sanction? Et la sentinelle qui trouve réponse à mes questions, serait-ce la bête? Serait-ce la bête? Ou bien l'oppression?
Luc avec la sentinelle.
La tête carrée. Sur France Inter.
Le livre s'appelle « Comme les bêtes, ce que les animaux nous apprennent de notre sexualité ». Il sort chez Flammarion. Il est écrit par le biologiste néerlandais Menno Schiltuizen et préfacé par notre invité Pierre-Henri Gouillon, avec à ses côtés Jean-François Dortier. Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, mais également à l'AgroParisTech, à l'ENS et à Sciences Po, spécialiste de l'évolution. Et puis Jean-François Dortier, vous êtes sociologue et directeur de la publication du magazine Sciences Humaines, dans lequel vous avez justement signé un article « À quoi sert la sexualité ?» et qui est sorti dans le numéro du mois de février, titre qui reprend d'ailleurs le titre du livre paru aux éditions Belin, dont on avait parlé avec vous également, Pierre-Henri Gouillon. Pierre-Henri Gouillon, la sexualité, c'est un sujet faussement familier pour les bipèdes que nous sommes. À chaque fois qu'on prend un ouvrage sur la sexualité, on se dit tiens, ça va être rigolo, on va beaucoup s'amuser. Et en fait, on en découvre toute la complexité. C'est assez déroutant quand même, la sexualité, et assez contre-intuitif aussi.
Oui, c'est vrai que en fait, les êtres vivants, ils ont quelques caractéristiques fondamentales, et l'une, c'est la reproduction, et la reproduction, elle est souvent sexuée, et du coup, on pourrait croire que ça, c'est un problème réglé,
ouais. Et
pas du tout, quoi. Vraiment, à la limite, c'est curieux de voir à quel point on a plus facilement expliqué la mort que la sexualité grâce aux théories de l'évolution.
Ouais.
Et alors, la sexualité, justement, il y en a une diversité. Il y a une diversité
incroyable
dans les modes de reproduction sexuée qui est fascinante. Peut-être que ça vaut la peine quand même d'introduire l'idée de sélection sexuelle tout de suite, parce que ce livre, la grande caractéristique qui est du livre, c'est de mettre en œuvre cette idée de sélection sexuelle lancée par Darwin dès l'origine des espèces, en 1859. Darwin propose l'idée que en plus de la sélection sexuelle, de la sélection naturelle, il y a la sélection naturelle donc qui adapte les organismes par sélection à l'environnement en général. Mais il y a une chose très particulière quand il s'agit du fait d'être accepté par le partenaire sexuel du point de vue des mâles en général. Ouais. On va simplifier.
On va schématiser.
Voilà. Ouais. Comment faire pour que les femelles veulent bien se faire féconder.
C'est toujours la même histoire.
Et le mâle va donc développer un certain nombre de caractères, et ce qui a été vu en premier, c'est la queue du paon, c'est les bois des cerfs, des caractères un peu délirants. La queue du paon, c'est vraiment une imbécilité sur le plan de la sélection sexuelle. Il est ultra visible.
Pour se faire piéger, oui, c'est
voilà,
ça.
C'est ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. Et ces caractères sexuels secondaires, Darwin les explique par la sélection sexuelle, qui va contre la sélection naturelle. Bon, l'originalité de recherches récentes menées par toute une série de chercheurs, dont Menno Schiltuizen, c'est le fait d'aller regarder comment la sélection sexuelle agit sur le sexe lui-même, sur l'organe
primaire.
Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été beaucoup fait et qui donne des résultats vraiment très intéressants. Un petit mot quand même pour dire que si Darwin a introduit la sélection sexuelle, il n'est pas impossible que l'idée, c'est une idée qui a été développée par un philosophe français qui s'appelle Jean Gaillon, que l'idée de Darwin ait été pour faire accepter l'idée que la nature sélectionne, alors que la nature c'est quand même un truc très abstrait, de faire un intermédiaire entre la sélection humaine, celle que font les éleveurs, les horticulteurs, et puis la sélection naturelle, où la nature complètement aveugle sélectionne simplement par le fait que certains réussissent et d'autres pas. La sélection sexuelle, c'était une sorte d'intermédiaire, puisque c'est pas un humain qui sélectionne, mais c'est quand même un être vivant qui fait des choix. Et donc, on est dans une sorte de position intermédiaire entre la sélection naturelle et la sélection artificielle.
Jean-François Dortier, s'intéresser à la sexualité, s'est plongé dans l'arbre du vivant aussi, avec toute sa variété, toute sa diversité, et c'est donc remonté là aussi aux origines, hein. Parce que l'évolution, le démarrage de l'évolution, en fait, c'est la sexualité aussi.
Pas tout à fait, non. Il faut justement dissocier aujourd'hui la sexualité de la reproduction.
Il faut savoir que la vie s'est déployée pendant 3 milliards d'années sans sexualité. Une grande partie des bactéries, encore aujourd'hui, se reproduisent en se divisant sans passer par le sexe. Et on sait aujourd'hui aussi que la sexualité dans le monde bactérien existe indépendamment de la reproduction. Il y a des formes d'échange de gènes où une paramécie vient rencontrer une autre paramécie, se colle à elle, développe un petit organe qui s'appelle la tipule, je crois, et qui vient transférer des gènes d'un organisme à l'autre. C'est une forme de sexualité primitive, on va dire, et qui est complètement séparée de la reproduction. Et puis, il y a beaucoup d'espèces qui se reproduisent sans sexualité, qui par des systèmes... Alors, les plantes le font régulièrement, une reproduction végétative, et des espèces animales aussi. Il y a des lézards, il y a même des... on le sait récemment, des requins-marteaux, différentes espèces qui ont soit une reproduction sans sexualité, soit avec sexualité, comme les phasmes, qui ont les deux moyens. Donc, aujourd'hui, on est amené à s'interroger sur le rôle de la sexualité, sachant qu'il n'est absolument pas nécessaire pour la reproduction.
Alors, comment ça démarre, au fond, Pierre-Henri Gouillon, la sexualité à un beau jour, justement, dans le monde vivant?
Alors, voilà, il y a une sorte de légende urbaine qui aurait voulu que les organismes primitifs aient été complètement isolés, puis aient fait une reproduction par pur clonage au départ, pendant longtemps, puis un beau jour, il y aurait un génie qui aurait dit oh, « c'est cool, je vais aller échanger avec la voisine », et puis crac, on aurait inventé le sexe. Alors, je pense que c'est vraiment pas comme ça que ça s'est passé. Je pense qu'il est impossible d'imaginer l'origine sans sexualité, au sens où Jean-François l'entendait à l'instant, c'est-à-dire une sexualité indépendante de la reproduction. Les premiers organismes vivants, ils devaient pas arrêter de se rencontrer, de fusionner, de se reséparer, etc. C'était la partouze, quoi, un peu quand même dans le monde vivant. Tout le monde copulait avec tout le monde. Et puis, progressivement...
C'est ça, dès les origines.
Dès les origines. On ne peut pas du tout imaginer une origine où chaque organisme aurait été vraiment isolé. Et justement, la première étape de l'évolution, ça a dû être que ces entités, parce que j'ai dit organisme, c'est un peu trop fort, que ces entités acquièrent une indépendance. Et au fur et à mesure qu'elles acquièrent l'indépendance, il a fallu qu'elles conservent des échanges. Parce que si jamais il n'y avait pas eu d'échanges, évidemment, leur génome aurait dégénéré progressivement, il n'y aurait pas eu de possibilité de faire de la diversité. Donc, il a dû y avoir toute une période très compliquée pendant laquelle la sexualité, comme celle des bactéries ou des paramécies qui viennent d'être évoquées, a existé, mais de façon très anarchique. Et puis, progressivement, ça s'est simplifié. Et au fond, et un jour, alors est apparue la liaison entre la reproduction et la sexualité. Ouais. Ça, c'est une invention assez tardive. Et à partir de ce moment-là, on est comme chez nous. Et à partir de ce moment-là, certains organismes peuvent totalement perdre la sexualité. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde était...
Il faisait du sexe.
Voilà, il y avait la sexualité indépendante de la reproduction, puis la sexualité liée à la reproduction. Et une fois qu'on en est là, on peut perdre la sexualité et fabriquer des organismes vraiment asexués, comme les lézards ou les requins.
Donc la sous-primitive, c'est la grande partouze.
Ah oui, ça, il n'y a pas de doute. Alors,
le mot est Jacques. Ça continue à l'être. Il ne faut pas s'imaginer que les échanges bactériens, c'est uniquement le passé de la vie. C'est encore l'essentiel du monde bactérien aujourd'hui.
Alors, il a fallu attendre assez longtemps quand même, Pierre-Henri Gouillon, pour voir les biologistes s'intéresser justement à cette science des organes génitaux, parce que c'est ce qu'il a raconté dans le livre. C'est vraiment les années 70-80.
Il a fallu attendre la libération sexuelle.
C'est ça, oui. Qu'est-ce qui a empêché au fond? C'était les outils pour observer comment les choses fonctionnaient vraiment?
Oh non, je pense que les outils, ça fait longtemps qu'on les a, parce que quand même, quand je l'ai des bestioles en train de copuler, puis les découper en rondelles...
Alors pourquoi est-ce que c'est arrivé si tard?
Oh, je pense que c'est une question de philosophie générale. C'est clair que Darwin a déjà fait des choses très osées pour son temps, mais sa fille a quand même surveillé ce qui n'allait pas trop loin quand même dans le scandaleux, et voilà, il a fallu attendre premièrement qu'on ait eu suffisamment fait avec d'autres choses et que cet aspect-là prenne de l'importance. C'est vrai que ce qui est curieux, c'est que ça fait belle lurette que les organes sexuels de pas mal d'organismes sont utilisés par les classificateurs. Ce qu'on appelle la systématique ou la taxinomie. Là, on s'était bien rendu compte qu'il y avait des tas de groupes, par exemple chez des insectes, ou en tout cas chez des invertébrés, où les organismes eux-mêmes, quand on les regarde, ils se ressemblent, mais quand on regarde leurs organes sexuels, là, on voit des grosses différences et on peut reconnaître des espèces simplement en regardant les organes sexuels. Donc, c'est vrai qu'on connaissait plein de choses sur la diversité des organes sexuels et que la question de savoir comment expliquer cette diversité n'est arrivée que très tardivement.
Alors, il y a un article fondateur, apparemment en 79, publication d'un article révolutionnaire sur le pénis des libellules. Waouh !
Oui, c'est C'est Jonathan Wade qui, en 79, lit dans Science cet article, montrant que les libellules ont, au bout de leur pénis, sont dotées d'une sorte de petite cuillère qui est chargée d'expulser le sperme des partenaires précédents.
Ceux qui sont
précédents.
Passés avant.
Et donc, c'est effectivement un des débuts de cette nouvelle science entière, un champ disciplinaire qui va se consacrer aux différentes facéties qu'a inventé la nature pour produire des organes sexuels. Par exemple, effectivement, chez les araignées ou chez certains coléoptères, vous avez des animaux qui sont en tout point semblables du point de vue extérieur, et vous apercevez qu'en fait, quand on regarde leur pénis, certains ont une forme d'un tube, l'autre d'une pince de crabe, l'autre d'un chat d'aiguille, alors que c'est apparemment, vu de l'extérieur, le même animal. Mmh. Alors pourquoi il y a une telle diversité dans l'organe sexuel?
D'où l'importance d'étudier les organes sexuels pour comprendre aussi la puissance de l'évolution, Pierre-Henri Gouillon.
Oui, certainement. Alors cette très grande diversité donc était connue puisque des classificateurs, et probablement une des raisons pour lesquelles on n'a pas étudié ça en détail, c'est qu'il y avait une explication qui satisfaisait tout le monde, c'était l'explication clé-serrure. L'idée était, chaque espèce va pouvoir s'isoler des autres par le fait que les femelles ont un organe sexuel avec une certaine forme et le mâle a juste l'organe sexuel qui permet de rentrer dedans et donc c'est parfait.
Eh ben non.
Et voilà. Et ce qui va se passer dans les années 70, c'est justement une révision des théories de l'évolution dans lesquelles on va se battre contre une attitude qu'on appelle panglossienne. Alors Pangloss, c'était un philosophe inventé par Voltaire pour se moquer de Leibniz, ça, dans Candide. Pangloss, il disait tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et effectivement, on va se rendre compte dans les années 70 que tout compte fait, l'évolution n'a pas du tout été optimisante au niveau global et que l'évolution, c'est toujours une série de bagarres et de choses qui sont faites comme on peut.
Allez, on y revient avec vous dans un instant pour parler autour de cet ouvrage chez Flammarion comme les bêtes, avec vos messages sur franceinter.fr. Sage, One Last Star.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
La sexualité prend une tournure encore plus libre chez les bonobos. Ces chimpanzés nains qui vivent souvent à proximité des plantations de canne à sucre dans les forêts équatoriales du Congo sont nos plus proches cousins. Nous partageons avec eux 98,4% de nos gènes et ce n'est peut-être pas un hasard si leur intérêt pour le sexe est au moins égal au nôtre. Leurs ébats sont tantôt hâtifs, tantôt longs et passionnés, mais jamais violents. La femelle ne se soumet pas, au contraire. Elle regarde intensément le mâle dans les yeux, comme pour l'encourager. L'amour à tout moment et avec n'importe quel partenaire. Les mâles, par exemple, copulent entre eux dans la plus totale des contractions. Culture de groupe ou nécessité sociale, le jeune bonobo apprend la plurisexualité avant d'être en âge de procréer. Quel que soit leur âge, les femelles occupent tour à tour l'une ou l'autre position. Mais ce choix se négocie auparavant par une gestuelle précise. On a répertorié chez les bonobos une vingtaine de gestes et de cris exprimant le désir sexuel.
Jean-François Dorty, Pierre-Henri Gouillon, mes invités donc cet après-midi pour parler de la sexualité animale comme les bêtes chez Flammarion. Pierre-Henri Gouillon, est-ce que notre proximité génétique justement avec les bonobos fait qu'on a aussi beaucoup de points communs dans notre sexualité ?
On peut le penser, mais d'abord, premièrement, je voudrais tout de suite corriger une impression qui pourrait être fausse. On n'est pas plus proche des bonobos que des chimpanzés. Ils sont deux cousins et on n'est pas plus proche d'un de nos cousins germains que d'un autre cousin germain. On est exactement à la même distance. Or, les chimpanzés et les bonobos ont des sexualités assez différentes, ce qui fait que trouver des proximités entre nous et l'ensemble chimpanzé-bonobo, ça peut être intéressant sur le plan biologique. En revanche, se comparer qu'avec l'un des deux, pour moi, c'est un petit peu tordu comme manière de voir les choses.
Ouais. Jean-François Dortier.
Oui, l'exemple des bonobos est emblématique. Il est toujours cité pour montrer qu'il serait un peu à part dans le monde animal, il nous rapprocherait des humains qui, eux, auraient une sorte de sexualité débridée, et alors que chez les autres primates ou les mammifères, la sexualité serait uniquement à des fins de reproduction. Le bonobo serait entre les deux. En réalité, on a découvert aujourd'hui qu'il y a une sexualité débridée chez plein d'autres espèces, et pas simplement les bonobos. Vous avez des orang-outans qui utilisent des bâtons comme sextoy.
Ah oui, il y avait des questions là-dessus, justement. Si certaines espèces utilisent des objets.
C'est Christophe sur Twitter. Objets, vous savez, des dauphins qui vont utiliser pour se masturber, des bouches de poissons ouvertes, des poissons morts ouverts. Ouais. Vous avez des pratiques chez les chauves-souris de cunnilingus. Ouais. Vous avez donc des écureuils qui se masturbent. Le plaisir sexuel débridé existe dans le monde animal, au-delà uniquement des humains et de leurs cousins bonobos. Oui.
D'autres exemples ?
Non, mais la masturbation, il suffit d'avoir un chien pour...
oui, ça, faut pas aller très très loin, effectivement. Et il utilise aussi des objets, d'ailleurs, pour se faire plaisir. Nancy nous dit, toutes les fonctions sexuelles, manger, boire, dormir, se reproduire, sont liées au plaisir. Est-ce que c'est une ruse de la nature pour obliger à remplir la fonction ?
C'est une manière de voir les choses. En tout cas, d'ailleurs, elle a été exprimée aussi bien par des biologistes que par Nietzsche. Dans le Zarathoustra, il dit ça très bien, que on donne du plaisir à l'individu quand il fait ce pourquoi il est destiné. Et ce pourquoi il est destiné, c'est à survivre et à reproduire ses informations génétiques. Donc effectivement, le plaisir, c'est certainement une manière de faire aux individus ce pourquoi ils ont été construits par l'évolution, en quelque sorte.
Jean-François Dortier. Oui.
Encore qu'il y avait une grande énigme qui s'est posée et qui continue à se poser, c'était celui du plaisir féminin. Ah. Puisque, sachant que dans la nature, comme chez les humains, alors qu'un homme, lui...
Il est obligé de passer par
par l'orgasme pour se reproduire, les femelles, non. Ouais. Donc, les femelles et les femmes, non. Donc, on s'est posé la question, pourquoi y a-t-il un orgasme féminin ? Et maintenant, on commence à s'interroger, on a cru aussi que l'orgasme était spécifiquement féminin, je veux dire, de l'espèce humaine. Et puis, maintenant, on s'aperçoit aussi que dans beaucoup d'espèces, il y a quelque chose... Alors, on emploie le terme de, pas de plaisir, mais de biais sensoriel, pour évoquer le fait que certains organes mâles tremblent et vibrent comme un vibromasseur à l'intérieur du corps de la partenaire. On trouve ça chez beaucoup d'espèces du taureau, mais également chez les mouches, provoquant une sorte d'émoi, en tout cas un tremblement du vagin, qui aurait pour objet de favoriser la fécondation.
Vous avez bien étudié la question, cas.
Ça a été un sujet de débat important chez les évolutionnistes, qui est d'ailleurs détaillé dans le livre, puisque le grand philosophe et biologiste Steve Gould, dans un très très joli essai qui s'appelle Male Nipples and Clitoral Ripples, donc les tétons des hommes et les crêtes clitoridiennes, je crois que ça a été traduit dans La foire aux dinosaures en français, explique que probablement l'orgasme clitoridien n'a aucune fonction, n'est que l'homologue, comme les tétons des hommes ne servent à rien, mais sont juste les homologues des tétons des femmes, l'orgasme clitoridien ne servirait à rien, il serait juste l'homologue de l'orgasme mâle. Il y a une de ses anciennes élèves qui a repris la question et qui effectivement montre que c'est pas évident que ça soit comme ça et que ça peut avoir une fonction.
Peut-être.
Je renvoie au livre les gens pour les gens que ça intéressera.
Grand Spin sur Twitter nous dit ceci. Est-ce que vous confirmez que les êtres vivants sont davantage faits pour se reproduire que pour vivre longtemps?
Ça.
Pierre Rigouillon. Parce que se reproduire, ça dépense de l'énergie aussi, quand même. Hein.
C'est une question. Il ne faut pas opposer les deux. Chaque organisme peut organiser ses ressources, soit en les investissant beaucoup dans le fait de survivre longtemps, soit dans le fait de tout mettre dans la reproduction et de vivre peu de temps. Alors, il y en a qui mettent tout de suite dans la reproduction et meurent immédiatement. Enfin, quand je dis tout de suite, d'ailleurs, ça peut ne pas être tout de suite. Et les bambous peuvent attendre 100 ans avant de se reproduire, mais quand ils se reproduisent, ils meurent. Hein, ils mettent tout dans la reproduction. Les cigales, plusieurs dizaines d'années éventuellement sous terre, et puis après quand elles sortent, crac, elles se reproduisent et elles meurent. Et puis il y a d'autres organismes, comme la plupart des arbres, comme nous d'ailleurs, comme les tortues marines, qui peuvent se reproduire et
tout
qui continuent
long.
À vivre.
Tout au long
alors,
de la vie.
Donc il y a certainement un antagonisme entre au niveau instantané entre reproduction et survie, et selon l'écologie de l'espèce, eh bien la sélection va favoriser le fait de conserver l'individu après la reproduction, ou au contraire de lui faire tout investir dans la reproduction. C'est sûr que ce qui va rester à la fin, ça sera les informations génétiques des individus qui auront fait le plus de descendants, mais pour faire plus de descendants, il y a plusieurs méthodes. L'une, c'est de tout faire tout de suite, l'autre, c'est de se conserver pour recommencer après.
Voilà. Jean-François Dortier.
Là encore, il y a un piège dans cette question en disant que les organismes sont faits pour se reproduire. Là encore, on ne va pas dire découverte, mais connaissance très répandue depuis quelque temps dans le monde animal, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'homosexualité dans le monde animal. Il y a des couples de canards, il y a des couples de kangourous, il y a des couples de girafes qui vivent en couple stable, qui ne se reproduisent pas, donc, et leur finalité de leur vie, c'est d'avoir un compagnon et de bien vivre ensemble.
Eh bien, regardez l'exemple des manchots, par exemple.
En 1922, le zoo d'Édimbourg acquiert 5 jeunes manchots royaux qui sont identifiés et nommés en fonction de leurs attitudes sexuelles. Mais au bout de 7 ans, les zoologistes se rendent compte que certains ont des rapports avec des partenaires du même sexe. Ils décident alors de vérifier le sexe des manchots, ce qui donne des résultats assez cocasses. Andrew est rebaptisé Anne, tandis qu'Eric et Dora deviennent un couple homosexuel, Erika et Dora, et que le couple Bertha et Caroline devient un couple de mâles qu'il faudra désormais appeler Bertrand et Charles. Si l'intention des zoologistes était de rétablir une certaine normalité, c'était raté.
Voilà, chez les manchots par exemple, Pierre-Henri Gouillon, on voit aussi l'instinct maternel des couples de mâles manchots.
Absolument, il y a eu récemment donc un zoo qui désespérait parce qu'il y avait un œuf qui avait été abandonné par un couple et aucun autre couple ne voulait l'adopter. Finalement, c'est un couple de mâles qui l'a adopté, qui s'en est très très bien occupé jusqu'à ce que le petit soit grand. Donc on peut trouver ça. Ce qui n'empêche que pour le moment, le mécanisme de l'évolution qu'on a trouvé, c'est quand même bien la sélection naturelle via le fait que les informations génétiques qui se reproduisent le plus restent et que celles qui se reproduisent moins disparaissent. Donc si les êtres vivants peuvent être vus comme des structures finalisées par un mécanisme aveugle qui est la sélection naturelle, hein, pas par une volonté magique, c'est bien cette reproduction qui est la finalité de la sélection naturelle.
Pourquoi une telle diversité d'ailleurs dans la sexualité animale au fond, Pierre-Henri Gouillon?
Ça vaudra sûrement la peine qu'on détaille quelques exemples, hein, mais effectivement, je pense qu'une des raisons pour lesquelles, quand on trouve de la diversité dans le monde vivant, c'est en général qu'il y a conflit. C'est-à-dire que si jamais deux organismes, pour maximiser leur reproduction, ne doivent pas faire la même chose, du coup, il va pouvoir y avoir conflit. Donc, on trouve par exemple chez les canards une histoire assez intéressante. Hein, le mâle voudrait pouvoir féconder n'importe quelle femelle, mais la femelle veut pouvoir choisir quel mâle elle accepte. Et on découvre à ce moment-là, et ça a fait partie des éléments qui sont allés contre l'idée des clés et des serrures, que les mâles ont un pénis en tire-bouchon, mais que les femelles ont un vagin un tire-bouchon aussi, mais qui tourne dans l'autre sens. Ouais. Ce qui rend les choses extrêmement difficiles pour le mâle. Et en réalité, ce que ça fait, c'est que si la femelle n'est pas totalement détendue, il n'y a aucun moyen pour le mâle de pratiquer l'intromission.
Il y a du gel chez les canards, hein, ou pas?
Oui, ouais. Et justement, là, les femelles s'en protègent en ayant un organe sexuel tout à fait opposé. Alors, ce qui est intéressant avec ces organes en tire-bouchon, c'est que ce n'est pas du tout le seul cas, il y en a pas mal. Et il y en a un qui est intéressant chez les escargots, que j'aime bien, parce que d'ailleurs, c'est une des découvertes de Ménoch Schuitzen lui-même, c'est que il a montré que certains escargots avaient dans une espèce, il avait des individus avec des coquilles qui tournent à droite et d'autres avec des coquilles qui tournent à gauche. Hein, vous savez, quand vous regardez un escargot, ça peut tourner dans un sens ou l'autre. Là, dans la même espèce, il a les deux. Et il constate que les pénis vont dans le même sens que la coquille. C'est des hermaphrodites. Donc, quand ils s'accouplent, normalement, on s'attendait à ce qu'ils s'accouplent entre individus et allant dans le même sens. Et pas du tout. C'est le contraire. Ceux à coquille droite s'accouplent plutôt avec des coquilles gauches et ceux à coquille gauche s'accouplent plutôt avec des coquilles droites. Et ils découvrent qu'étant donné la conformation de l'organe sexuel de ces individus femelles, hein, qui sont, eh bien, c'est plus facile pour un coquille droite de pénétrer un coquille gauche et réciproquement. Ce qui fait qu'en réalité, les coquilles droites et coquilles gauches fonctionnent en sorte comme deux sexes. Oui. C'est-à-dire que les individus d'une forme sont sélectionnés pour pouvoir aller avec les autres. On est donc dans un cas où la sélection sexuelle, en sélectionnant la forme des organes sexuels, a sélectionné la forme de la coquille, c'est-à-dire la forme générale de l'organisme. C'est la sélection sur la forme du pénis qui sélectionne la forme de la coquille et qui fait qu'il y a ces deux sortes de coquilles qui tournent à droite et qui tournent à gauche.
Jean-François Dortier.
Oui, à cette question de la diversité, ce qui est troublant, c'est que la nature, elle va vers l'exubérance aussi, et non pas toujours vers l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des dispositifs de course aux armements où, pour pouvoir séduire ou pour pouvoir conquérir, oui. Eh bien, il faut se distinguer. Et il faut se distinguer, parfois, par des couleurs, par des formes, par des apanages qui sont totalement inutile, exubérant,
on parlait
mais
du qu'un pan,
charme
tout à
fou. Alors
exemple,
les plumes de pan,
c'est les oiseaux
le plus connu, mais vous pouvez prendre des mouches, il y a des mouches qui appellent des mouches diopsides, dont on parle également dans le livre, qui ont des yeux, qui sont comme les escargots au bout d'antennes, qui leur sortent de 1 cm de leur tête.
C'est totalement psychédélique.
Ça ne sert strictement à rien, si ce n'est que ça a un charme fou au royaume des mouches diopsides.
Ocytoride, l'idéal sur Inter.
Avant de sortir de ce milieu répugnant, que l'on regarde encore les sangsues, hermaphrodites, elles pratiquent également la fécondation réciproque. Mais la position de leur sexe les oblige à une attitude singulière. La verge saillit d'un port situé vers la bouche. Le vagin est au-dessus de l'anus. La copulation des vilaines bêtes forme donc un tête-à-queue, la ventouse buccale coïncidant avec la ventouse anale.
Voilà, par exemple, hein, Pierre-Henri Gouillon.
Un petit 69 chez...
Mais c'est ça, chez la sangsue, ça, ça fait rêver. C'est ça, ça fait vraiment rêver. Vous êtes avec nous d'ailleurs pour nous raconter toutes ces histoires étranges de la sexualité animale, comme les bêtes chez Flammarion. Et puis, nous sommes également avec Jean-François Dortier, qui a signé un article dans le dernier numéro de Sciences Humaines, « À quoi sert la sexualité ?». D'autres exemples, justement, Jean-François Dortier. Vous aimez bien, je crois, les poulpes, hein, les lances-fléchettes chez le poulpe, une histoire savoureuse.
Oui, effectivement, les poulpes sont dotés d'un pénis particulier qui est une sorte de effectivement lance-fléchette, c'est-à-dire qu'il propulse des petites ampoules de sperme qui viennent se planter dans le corps de la partenaire. Oui, donc il n'y a pas forcément d'intromission ici, c'est une projection. Oui. Alors il y a un cas qui est raconté dans ce livre qui est justement, il faut faire très attention avec ça, d'une Italienne, je crois, qui sortant du restaurant où elle venait de manger une salade de poulpe, et le poulpe, on peut garantir, était très très frais, s'est retrouvée finalement avec la bouche totalement transpercée de petites ampoules de sperme du poulpe. Et elle a fait une allergie, la pauvre.
C'est dégoûtant. Hein.
Ah, c'était un restaurant coréen. Hein.
Non, mais c'est affreux. Le poulpe était encore bien vivant, donc c'est ça. Ouais.
Non, pas le poulpe, mais les fléchettes.
Les fléchettes fonctionnaient encore, en tout cas.
D'autres. Alors justement, le pénis le plus long du règne animal, s'il vous plaît, Pierre-Henri Gouillon, quand même, parce qu'on l'a vendu en début d'émission, il faut quand même qu'on lâche l'affaire.
Donc c'est bien celui du
pouce. Sont les pouces-pieds.
Ah ouais, donc c'est des animaux fixés. Hein.
C'est Darwin qui l'a découvert, apparemment.
Ben Darwin était spécialiste des cirripèdes, hein, c'est une forme, les chapeaux chinois, vous voyez un peu, des choses comme ça, qui sont un peu fixées, hein, et fixées sur des rochers, et donc effectivement, pour aller retrouver le partenaire, ben c'est le pénis qui y va, ils ne peuvent pas bouger.
Voilà. Donc relativement à leur taille, évidemment, c'est considéré comme le pénis le plus long du règne animal.
Mais peut-être qu'on pourrait parler du plus beau clitoris quand même du monde animal.
Mais je vous en prie, allez-y.
Ça c'est chez les hyènes. Les hyènes tachetées.
Alors ça c'est incroyable.
Ils sont vraiment célèbres sur ce plan-là. Il y avait une explication qui était l'explication acceptée par tout le monde, on va essayer de faire vite, hein, mais c'était le fait que comme chez les hyènes, c'est les femelles qui sont dominantes, eh bien pour être dominante, la seule qui se reproduit, c'est la dominante dans le groupe. Donc du coup, il est essentiel d'être dominante, et du coup, elles ont surproduit de la testostérone, ce qui leur permet d'être plus agressives, et du coup, elles ont un clitoris qui s'est mis à se développer comme un pénis. C'est un clitoris qui ressemble en tout point à un pénis. Sauf que malheureusement, il y a une conformation très particulière des organes sexuels de la hyène, puisque pour accoucher, le petit doit passer par le clitoris, hein, et il est refermé autour de la sortie, et du coup, le petit doit passer par ce tuyau qui est long et étroit.
Donc par le pénis, on pourrait dire ça.
On peut presque appeler ça un pénis, et du coup, le résultat, c'est que ça se passe très mal. Il y a 30% des petits qui meurent à l'accouchement parce que le conduit ombilical est pas assez long. Et on voit bien ici un truc important pour comprendre la sélection naturelle, c'est que puisqu'il est essentiel d'être dominante, eh bien la sélection naturelle a favorisé ce système-là. Et tant pis si jamais ça fait 30% de morts chez les petits, la sélection va favoriser une femelle qui perd même la moitié de ses petits, mais qui est dominante et qui du coup fait des petits, par rapport à une femelle qui ne perdrait pas ses petits, mais qui n'étant pas dominante, n'en ferait tout simplement pas, parce que c'est seulement les dominantes qui font des petits. La sélection naturelle n'optimise pas les choses, elle favorise simplement ceux qui ont maximisé la reproduction de leurs informations génétiques.
Alors, une petite précision sur les pouces-pieds quand même, sur cette taille de pénis, donc le plus long du monde dans le règne animal, c'est 8 fois la longueur du corps quand même, hein, du pouce-pied, parce qu'évidemment, il faut avoir un élément de comparaison. Jean-François Dortier, d'autres exemples qui vous ont plu, marqué, dont vous auriez envie de nous parler cet après-midi ?
Il y a des exemples exotiques, mais derrière, au-delà de l'anecdote qui est toujours savoureuse, il y a quand même derrière ce livre, et cette, la réflexion sur ces formes, cette diversité des formes de sexualité animale, ça invite aussi à une autre vision de la nature. Une vision de la nature qui est plus libertine, qui est plus exubérante, qui ne se réduit pas justement à des organismes qui n'auraient pour seule finalité une sorte de fitness, c'est-à-dire de relier des organes avec des fonctions. Oui, vous prenez un aigle, son bec, ses yeux, son bec lui sert à c'est un prédateur, c'est un organisme qui semble entièrement dévolu à la prédation. Ses yeux lui servent à voir loin, son bec à dépecer les proies. Mais le plumage, la couleur des plumes, eh bien, c'est quelque chose qui ne sert à rien si ce n'est à séduire. Et donc, du coup, on s'aperçoit qu'une grande partie de la nature est faite aussi pour régie par les lois du désir, les lois, les ailes de papillon. Vous savez, le papillon, la chenille, elle pense à la survie, elle se nourrit, c'est sa seule vie. Puis ensuite, dès lors qu'elle s'est transformée en papillon, elle ne pense qu'à copuler. Et les ailes de papillon, c'est beau, ça nous attire comme les fleurs. Qu'est-ce qu'une fleur ? Une fleur, c'est un organe sexuel qui est doté de pétales qui sont belles, qui attirent les insectes, d'odeurs qui attirent également les insectes et qui ont même un effet sur nous et qui introduisent donc la sélection sexuelle, beaucoup de beauté, de variété, oui, de diversité et d'exubérance dans
c'est
la
ça,
nature.
C'est ça, c'est cette créativité au fond, hein, cette exubérance que vous appelez le libertinage, évidemment, hein, Pierre-Henri Gouillon.
Alors, deux points par rapport à ça. Premièrement, effectivement, on a quand même longtemps, on a des tas d'explications d'ailleurs sur le fait que le plumage exubérant des oiseaux, etc., c'est fait pour plaire aux femelles, mais les femelles, elles aiment ça. Et dans un premier temps, tant que la science était faite par des hommes, eh bien, ils ont pensé que c'était fait parce que c'était la preuve que c'était des bons mâles et que la femelle choisissait le mâle en fonction de ses qualités. Mmh. Et puis, il y a eu une chercheuse qui a eu une idée géniale. Elle s'est mise à implanter des petites plumes sur la tête d'oiseaux qui n'avaient jamais eu de plumes comme ça sur la tête. Les photos sont hilarantes. Et les femelles ont trouvé ça super séduisant. Donc, alors que ça ne veut évidemment rien dire. Donc, l'esthétique pure, ça existe aussi dans les choix.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus dans La Tête au Carré. On renvoie à ce livre, hein, donc, Comme les bêtes, dont vous signez la préface, Pierre-Henri Gouillon. C'est chez Flammarion, ce que les animaux nous apprennent de notre sexualité. Et puis, on peut également lire l'article À quoi sert la sexualité dans le nouveau numéro de Sciences Humaines. Et puis, on renvoie aussi sur ce livre qu'on aime beaucoup, Révolution dans nos origines, toujours chez Sciences Humaines, dont on avait parlé à plusieurs reprises dans cette émission. Merci à tous les deux.
Merci.
Et nous passons à notre ami Barthélémy.
La chronique de Pierre Barthélémy. En partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde.
Voilà la science improbable, Pierre Barthélémy, qui pour une fois ne nous parle pas d'ailleurs de sexualité, mais d'une situation d'urgence à laquelle nous pourrions être confrontés, Pierre.
Oui Mathieu, imaginez, vous venez de faire un arrêt cardiaque, heureusement en présence d'une âme charitable qui a eu le réflexe de prévenir les secours, et deux éléments vont vous aider à évaluer votre probabilité de survie, même si a priori vous n'êtes pas en état de procéder au moindre calcul.
Alors
premièrement, comme le rappelle une étude publiée le 18 janvier dans le journal de l'Association médicale canadienne, cette probabilité n'est pas fantastique. Sur les quelques 400 000 arrêts cardiaques qui surviennent chaque année en Amérique du Nord, en dehors de l'hôpital, le taux de survie est inférieur à 10%.
Wow.
Deuxièmement, comme votre état nécessite une réanimation rapide, vos chances de poursuivre votre chemin dans l'existence autrement que dans un corbillard diminuent de 7 à 10% à chaque minute qui passe.
Donc le facteur temps est assez essentiel dans ces cas-là. Hein.
Décisif même. Comme le souligne cette étude, de plus en plus de personnes s'éloignent du SAMU, non pas parce qu'elles partent vivre dans le Larzac, mais tout simplement parce qu'elles vivent à un étage élevé.
Aïe.
Et autant on connaît bien le délai dit horizontal, c'est-à-dire le temps mis par les secours pour arriver à la bonne adresse, c'est mieux. Autant on ignore la valeur moyenne du délai vertical, le temps qu'il faudra au réanimateur pour parvenir à l'étage où, je vous rappelle Mathieu, vous êtes en train de mourir. Pour évaluer ce délai vertical et son influence sur la survie, nos chercheurs ont exploité une base de données de la ville de Toronto, remplie par l'équivalent canadien du SAMU, ainsi que par les pompiers et des hôpitaux. Cette base recense les détails horaires de toutes les interventions d'urgence et les étages où elles ont eu lieu. On avait ainsi les statistiques complètes pour 7842 arrêts cardiaques survenus entre 2007 et 2012.
Alors, quelles sont mes chances de survie, Pierre ?
Pas fantastique, étant donné que notre studio est au cinquième étage et que vous-même, vous me l'avez dit, vous vivez au sixième sans ascenseur. En effet, selon cette étude, si l'intervention avait lieu au rez-de-chaussée, au premier ou au deuxième étage, le délai vertical était de 3 minutes en moyenne et 4,2% des personnes atteintes par un arrêt cardiaque survivaient. Si le SAMU ou les pompiers devaient accéder à tous les étages supérieurs au deuxième, ce délai s'élevait avec l'altitude, 4,9 minutes en moyenne, et le taux de survie moyen, lui, chutait à 2,6%. Alors il s'agit que de moyenne, et il faut entrer dans les détails pour comprendre à quel point ceux qui choisissent de vivre à un étage très élevé, en espérant tutoyer les cieux, risquent aussi de se retrouver plus vite au paradis.
C'est horrible votre truc.
L'étude révèle ainsi que le taux de survie tombe à 0,9% au-delà du 16e étage, et qu'au-delà du 25e, le nombre de survivants à un arrêt cardiaque a été de zéro.
Voilà, et on n'en parle pas si évidemment l'ascenseur est tombé en panne ce jour-là. On retrouve cette chronique dans le supplément Sciences et Médecine du Monde, Pierre, qui sort aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres sujets dans le supplément? Évidemment oui.
Alors, cette semaine, actualité oblige, le grand dossier est consacré au virus Zika qui se propage rapidement en Amérique latine. Nous posons 10 questions sur ce virus. D'où vient-il? A-t-il muté? Comment se transmet-il? Comment reconnaît-on la maladie? Et quels sont les risques pour les femmes enceintes, etc.
À mardi prochain, Pierre Barthélémy.
À mardi.
Merci beaucoup. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Affaires sensibles, quel sera le thème?
Je dirais que l'escroc du siècle, Bernard Madoff. C'est pas rassurant parce que le siècle, il ne fait que commencer.
Ouais.
Non, voilà.
Il y a un Chinois apparemment aussi qui a été arrêté là.
Et on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise financière un jour, c'est pour la raison pour laquelle je vous dis ça. Christophe Alix, chef du service économie au journal Libération, notre partenaire, sera notre invité.
A tout à l'heure après les infos.